cet épître de Paul aux Philippiens, enfin au chapitre 3, et je vais lire les 9 premiers versets. Aux Philippiens, au chapitre 3, je vais lire les versets 1 à 9. Au reste, mes frères, donc c'est Paul qui écrit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je n'éprouve aucun ennui à vous écrire les mêmes choses, et pour vous, c'est une sécurité. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les vrais circoncis, c'est nous. Nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Christ Jésus, et qui ne mettons pas notre confiance dans la chair. Pourtant, moi-même, dit Paul, j'aurais sujet de mettre ma confiance dans la chair. Et il faut bien comprendre que quand il parle de chair, il ne parle pas des, on peut dire, des désirs bas et mauvais du corps par opposition à l'esprit. Hein. C'est, quand il parle de la chair, c'est tout ce qui s'oppose, enfin, tout ce qui est en dehors de Christ, on pourrait dire, pour sanctifier. Donc, il dit, pourtant, moi-même, j'aurais sujet de mettre ma confiance dans la chair. Si d'autres croient pouvoir se confier en la chair, à plus forte raison, moi, circoncis le huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant au zèle persécuteur de l'Église, quant à la justice légale, irréprochable. Mais, ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause du Christ. Et même, je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre, et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec une justice qui serait la mienne, qui viendrait de la loi, mais avec la justice qui est obtenue par la foi en Christ, une justice provenant de Dieu et fondée sur la foi. Voilà, je m'arrête ici dans cette lecture. C'est ce passage-là qui servira donc de base au message. Je viens de terminer mon année académique. J'ai eu mes derniers cours vendredi et c'est quand mes examens dans une semaine. Mais une des choses qui m'a vraiment frappé pendant cette année, c'est comme mes professeurs, ces hommes érudits, prennent beaucoup de temps pour trouver le bon mot, le mot exact pour communiquer exactement ce qu'ils veulent dire. Ils sont toujours très nuancés, très précis, etc. Ils sont prudents dans ce qu'ils avancent. C'est une qualité, mais c'est parfois un peu frustrant. Alors, des fois, on a l'impression de leur dire, mais dites ce que vous avez envie de dire, quoi. Arrêtez de tourner autour du pot, dites-le. C'est un peu comme ces politiciens qui, après 5 minutes, n'ont toujours pas répondu à la question qui leur a été posée. C'est parfois un peu comme ça que je me sentais dans la salle des classes. Paul, qui écrit ce passage, il est aussi un professeur érudit. C'est un docteur de la loi, un spécialiste qui avait reçu une formation académique des plus exceptionnelles. Si on veut comparer un peu avec ce qu'il pourrait faire aujourd'hui, on pourrait dire qu'il a été dans quelque chose de l'équivalent d'Oxford, de Harvard, de la Sorbonne, ce genre d'établissement-là. Et c'est donc quelqu'un qui pèse ses mots, qui est nuancé, qui est minutieux, précis dans ce qu'il dit. Et pourtant, c'est d'autant plus frappant de voir ce qu'il écrit au verset 8. Regarde encore une fois le verset 8. Il dit, et même, je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre, et je considère tout comme des ordures. Nos traductions, elles sont vraiment gentilles. Elles ont adouci le sens du mot parce que le mot ordure ici, skouvalon en grec, littéralement, c'est excrément. C'est ça le mot. Et Paul regarde à ses accomplissements, ses références personnelles qui sont impressionnantes, qui sont listées dans les versets 5 à 6. On y reviendra tout à l'heure. Et il dit finalement toutes ces choses, mes accomplissements, mes réussites, ma réputation, tout ce que je suis, tout ce que j'ai fait, mes diplômes, etc. Toutes ces choses,
c'est de là. Vous avez compris, on n'aurait pas envie de marcher dedans. Ah, c'est de la boue. Vous voyez ce que Paul dit, toutes ces choses qui brillent tellement à nos yeux, l'argent, la réputation, la reconnaissance des autres, la réussite, etc., toutes ces choses n'ont aucune valeur, même, elles sont sales. C'est ça qu'il dit. Vraiment ? Comment est-ce que Paul, lui qui pourtant pèse ses mots, qui est un homme, comme on l'a dit, nuancé, comment est-ce qu'il faut faire une remarque aussi extrême que ça ? C'est parce qu'en fait, il compare ces choses qui brillent tellement à nos yeux, et qui ne sont pas forcément mauvaises en elles-mêmes, mais compare ces choses-là à quelque chose de plus brillant encore. Un peu comme qui éclipse toutes ces choses qui nous semblent si brillantes. Un peu comme le soleil qui se lève fait disparaître les étoiles dans le ciel. C'est un peu ça. C'est d'ailleurs assez frappant que Paul utilise ce même langage-là lorsqu'il parle de sa conversion à Christ. Si vous lisez dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 26, Paul décrit cette expérience et il dit « Vers le milieu du jour, alors que j'étais en chemin vers Damas pour persécuter les chrétiens, j'ai vu resplendir autour de moi et de mes compagnons de route une lumière venant du ciel, plus éblouissante encore que le soleil. » Et cette lumière, si brillante, qui a éclipsé toutes les autres, toutes les ambitions les plus profondes de Paul, cette lumière, c'est, Paul nous dit ici, c'est lui. C'est celui qu'il a rencontré sur le chemin de Damas. C'est Jésus-Christ. Regardez le verset 9 encore une fois. Au verset 9, Paul dit que c'est à cause de lui, de Christ, qu'il a accepté de tout perdre et d'être trouvé en lui, non avec une justice qui serait la mienne et qui viendrait de la loi, mais avec la justice qui est obtenue par la foi en Christ, une justice provenant de Dieu et fondée sur la foi. Maintenant, on va parler de la justification par la foi, puisque c'est ce dont Paul parle ici, il est question de justice à plusieurs reprises. Et c'est peut-être une expression que vous avez déjà entendue des dizaines de fois, et peut-être que c'est la première fois. Sachez en tout cas que Martin Luther, cette grande figure historique, disait la chose suivante, il disait que selon que cette doctrine, la justification par la foi, tombe ou subsiste, l'Église tombe ou subsiste. Autrement dit, c'est vraiment crucial qu'on s'arrête un instant sur cette question de la justification par la foi, mais vous vous doutez bien qu'on ne va pas faire le tour du sujet ce matin. Si vous avez des questions encore par rapport à ça après, sentez-vous libre de venir vers moi ou d'aller vers David, qui sera beaucoup plus clair que moi, pour rester pas avec vos questions en tout cas. Moi, ce que j'aimerais simplement vous montrer ce matin, c'est trois choses. J'aimerais vous montrer que ce passage nous apprend que la justice, c'est tout d'abord notre besoin le plus fondamental. La justice, c'est notre problème le plus grand. Et c'est le cadeau le plus merveilleux que Dieu puisse nous faire. Tout d'abord, la justice, c'est notre besoin le plus fondamental. La plupart du temps, quand on utilise le mot justice, nous, si vous êtes dans la rue, vous entendez le mot justice employé, on pense généralement au fait d'agir en respectant le droit, en traitant les gens de manière équitable. C'est un peu ça l'idée qu'on a en tête. C'est d'ailleurs l'une des définitions qu'on donne le Larousse, le dictionnaire Larousse. Je vous dis juste la définition qu'il donne. Il dit « La justice, c'est la qualité morale qui invite à respecter les droits d'autrui. » Si on veut rendre ça plus simple, on peut penser c'est un peu l'image des justiciers dans les films de super-héros américains, hein, comme Superman ou Batman, qui vont rétablir le droit et régler les conflits à droite et à gauche. En général, c'est dans ce sens-là qu'on emploie le mot justice, n'est-ce pas ? Mais c'est pas dans ce sens-là que Paul utilise le mot ici. Et j'aimerais juste vous montrer ça en prenant un peu un détour. Regardez le verset 2 d'abord. Au verset 2, Paul dit trois fois « Prenez garde ». Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Alors, il est difficile de savoir exactement qui étaient ces personnes contre lesquelles Paul laissait les sœurs en garde, mais avant la manière dont il les décrit, probablement qu'il s'agissait de judaïsants. Les judaïsants, c'était des personnes, des faux enseignants d'origine juive qui se présentaient comme chrétiens dans ces communautés, ces jeunes communautés assez fragiles, comme celle de Philippe, à qui Paul écrit cette lettre. Et en substance, leur propos, c'était le suivant. Ils disaient que les chrétiens qui étaient d'origine païenne, non juive, devaient se soumettre à la loi mosaïque, à la Torah, à la loi juive, s'ils voulaient réellement être considérés comme faisant partie du peuple de Dieu. Cette obéissance à la loi mosaïque, elle commençait en tout cas symboliquement par la circoncision. C'est pour ça qu'il est question de circoncision à plusieurs reprises ici. Si vous voulez, il disait en gros, si tu veux être accepté comme membre à part entière du peuple de Dieu, il y a une liste de choses à faire. Il faut être circoncis, il faut manger kasher, il faut respecter la tradition orale des anciens, etc. Et ce qui est assez frappant, c'est que Paul, plutôt que de s'opposer frontalement à ces judaïsants, ces faux enseignants, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il rentre un peu dans le jeu. Il joue le jeu. C'est-à-dire qu'il donne sa liste à lui. Il fait la liste de ses références personnelles. Regardez les versets 5 et 6. Paul dit à son sujet qu'il était circoncis le huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu. Quant à la loi pharisien, quant aux ailes persécuteurs de l'Église, quant à la justice légale, irréprochable. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails, j'ai pas envie de vous ennuyer avec toutes sortes de détails sur Paul et la situation du judaïsme à l'époque, mais juste en quelques mots, c'est important de comprendre que lorsque Paul dit qu'il était circoncis le huitième jour de la race d'Israël, ce qu'il veut montrer par là, c'est qu'il n'est pas un prosélyte. Il n'est pas un converti au judaïsme. C'était souvent considéré comme les juifs de seconde classe. Non, lui, il est un juif de naissance. Et du coup, sa circoncision avait été faite de manière valide selon les rites juifs, c'est-à-dire le huitième jour. Si vous voulez, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il est pur ethniquement. C'est ça qu'il est en train de dire. Et ensuite, il ajoute qu'il est de la tribu de Benjamin. Autrement dit, il n'est pas n'importe quel juif. Il fait partie de la seule tribu d'Israël qui était restée fidèle à la dynastie de David lorsque les 10 autres tribus avaient fait une sorte de mutinerie, en fait. Ils s'étaient séparés du pouvoir en place au 10e siècle avant Jésus-Christ. Et puis il rajoute encore qu'il est hébreu, né d'hébreu. Et probablement, en disant ça, Paul se positionne par rapport à ces juifs qui n'étaient qu'en surface, en fait. Ils étaient juifs, mais en réalité, au fond, ils avaient adopté la culture grecque, qui était la culture prévalente dans le bassin méditerranéen à l'époque. Paul, lui, sa langue maternelle, c'était l'hébreu. Ses parents étaient hébreux et il était attaché à la tradition de ses ancêtres. Ce qu'il est en train de nous dire, finalement, il est pur culturellement. C'est ça qu'il nous dit. Et puis il ajoute encore, selon la loi, quant à la loi, un pharisien. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, parce qu'il a eu une formation exceptionnelle. C'est de lui un membre de cette secte, les pharisiens, qui était une sorte d'élite religieuse, qui obéissait de manière scrupuleuse à la loi. Et plus que ça, il était vraiment zélé, parce qu'il rajoute qu'il était persécuteur de l'Église, on peut dire un leader, un activiste dans le judaïsme, à tel point qu'il pouvait dire qu'il était irréprochable aux yeux de la loi. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas perdu avec ces quelques détails, je ne vais pas prendre trop de temps, mais voilà les références que Paul nous donne. En fait, il nous donne son CV, non ? D'accord ? Ce qu'il fait ici, c'est qu'il nous donne son CV, une liste de ses compétences, de ses accomplissements, de ses mérites. Et pour un juif de l'époque, c'est vraiment un bon CV. C'est un CV en béton. Maintenant, ce qui nous concerne, quand est-ce qu'on fait un CV ? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un CV d'habitude ? C'est quand on cherche un travail. Enfin, on a besoin d'un CV quand on veut obtenir un poste. C'est un peu une manière de se vendre pour être accepté dans une entreprise. Donc, c'est un peu une manière de dire, bon, j'ai fait telle formation dans cette école prestigieuse, j'ai fait un chiffre d'affaires de tant l'année passée, j'ai travaillé tant d'années dans cette boîte, voilà mon parcours. voilà les raisons pour lesquelles vous devriez m'engager et me faire et m'accepter dans votre entreprise. Vous voyez, on a besoin d'un bon CV pour être admis, on pourrait dire, là où nous ne le sommes a priori pas. C'est ça le principe du CV. Mais Paul, par son exemple, nous montre qu'en fait, tous, on fonctionne sur le principe du CV à d'autres niveaux encore, beaucoup plus fondamentaux. Présenter un bon CV, faire une liste de nos mérites pour être accepté, c'est ce qu'on fait finalement à tous les niveaux de notre vie. Toute notre manière de vivre, toute la société même, fonctionne sur ce principe-là. Je pense une seconde à vos amitiés, à vos relations avec votre entourage. Si vous arrivez à vous rappeler l'époque où vous étiez au collège ou au lycée, une des choses les plus effrayantes, c'est le regard des autres, n'est-ce pas, qui vous jauge, qui vous évalue. Comment est-ce que je dois me comporter, comment est-ce que je dois m'habiller pour faire partie, pour entrer dans le groupe. C'est un peu les questions qu'on a à cet âge-là. Et puis après, les années passent et forcément les attentes, elles évoluent un peu. On doit prouver qu'on est un bon partenaire pour entrer dans une relation de couple avec quelqu'un et répondre aux attentes qui sont parfois irréalistes de notre partenaire. On doit prouver qu'on a un bon père, une bonne mère, un employé qualifié, un patron respecté, une personne d'influence ou qui est reconnue pour sa sagesse ou sa personnalité attachante ou autre. Et vous voyez, on fonctionne sur ce principe-là. Comment est-ce qu'on est admis par notre entourage? C'est en agitant un CV. Regarde comme je suis intelligent, regarde comme je suis belle, regarde ce que j'ai fait, mon statut, mon revenu. Mais ce qui est bien plus fondamental encore, c'est qu'on agit selon le même principe du CV envers soi-même. Il y a certains standards qu'on se fixe, il y a certaines attentes qu'on se place, à tel point que généralement il y a un peu un effet de pendule. C'est-à-dire que si on est à la hauteur de nos attentes, si on a réussi à à se constituer un bon CV, en tout cas à nos yeux, alors on est confiant, voire orgueilleux, tous, même à maîtriser ceux qui sont autour de nous et qui ont peut-être pas un CV aussi reluisant que le nôtre. Parce que bien sûr, on fait la même chose avec les autres. Nous aussi, on les évalue, on les jauge en fonction de leur apparence, leur discours, leur personnalité, etc. Et puis, à l'inverse, toujours par effet de pendule, si on n'est pas à la hauteur de nos attentes, des attentes qu'on s'est fixées, c'est dévastateur. Ça dépend peut-être dans quel domaine. Et c'est sûr qu'il y a certains domaines qui sont très importants pour vous et que si vous êtes mis face à un échec dans ce domaine-là, vous en perdez votre joie, vous blâmez, vous détestez peut-être, ça peut aller jusque-là, je pense. Vous voyez, à tous les niveaux, on fonctionne selon ce principe-là, on se forge une liste de mérites, on se fait un bon CV pour être accepté et s'accepter soi-même. Et c'est ça la justice dont Paul parle ici. Regardez le verset 4. Au verset 4, Paul dit « Pourtant, moi-même, j'aurais sujet de mettre ma confiance dans la chair. Si d'autres croient pouvoir se confier en la chair, à plus forte raison, moi. » Et on sait maintenant pourquoi il dit ça. On sait pourquoi il dit « à plus forte raison, moi. » On a vu son CV. On voit bien qu'il a toutes les raisons de mettre sa confiance en lui-même, de se vanter de ses mérites. Et c'est ça. Vous voyez, la justice dont Paul parle. C'est tout ce en quoi je place ma confiance pour être accepté par les autres et pour m'accepter moi-même. C'est tout ce qui me permet d'accepter les critiques des autres sans être dévasté. C'est ce dont je me vante facilement. C'est ça, votre justice. On peut dire, c'est ce qui vous permet de vous regarder dans le miroir chaque matin. Je ne peux pas me mettre à votre place. Je ne sais pas ce que c'est pour vous. Ça peut être différentes choses. Est-ce que c'est la réussite de vos enfants? Est-ce que c'est la taille de votre église? Est-ce que c'est la qualité de votre diplôme, votre beauté, votre succès? En ce qui me concerne, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais en ce qui me concerne, c'est très bien, par exemple, que mes résultats d'examen ont beaucoup plus d'impact sur ma manière de regarder à moi-même et de m'accepter que je voudrais bien l'avouer. C'est comme ça. Il y a d'autres choses, mais c'est une des choses. Vous voyez, la justice est notre besoin le plus fondamental parce qu'on cherche tous à vivre à la hauteur de quelque chose. C'est mon premier point. Mais la Bible nous enseigne que non seulement nous fonctionnons selon le principe du CV dans nos relations aux autres et à nous-mêmes, mais beaucoup plus fondamentalement encore, et c'est bien là le problème, c'est notre relation à Dieu. Et c'est mon deuxième point. C'est la justice est non seulement notre besoin le plus fondamental, mais c'est notre problème le plus grand. Dire que la justice est notre problème le plus grand, ça revient à dire, et je vais le dire, si c'est ce que vous comprenez un peu mal dans un premier temps, vous froncez les sourcils, ça revient à dire que notre problème le plus grand, contrairement à ce qu'on pense parfois, c'est pas notre péché, dans le sens d'infraction directe au commandement de Dieu. On pense, enfin, je vais vous expliquer avant que vous me jetiez dans les yeux. On pense parfois qu'il y a deux types de relations à Dieu. Soit on l'accepte, soit on le rejette. La Bible nous montre de manière répétée qu'il y a en fait trois types de relations à Dieu. On peut soit effectivement se tourner vers lui et accepter son pardon en Christ et lui obéir, ça c'est le principe de l'évangile, on va y revenir tout à l'heure. Soit on peut rejeter Dieu, mais il y a deux manières de le rejeter. C'est ce que certaines personnes ont appelé l'irreligion et la religion. L'irreligion, c'est rejeter Dieu comment ? C'est en choisissant d'être mon propre Dieu, en me désintéressant et en désobéissant aux lois de Dieu pour faire ce que je veux. On va dire à ma guise. C'est ça l'irreligion. Et dans une certaine mesure, on fonctionne tous un peu selon ce principe. De pas trop s'inquiéter de ce que Dieu dit pour faire ce que j'ai envie moi. Mais il y a une deuxième manière de rejeter Dieu, c'est ce qu'on appelle le principe de la religion, qui consiste à rejeter Dieu comment cette fois ? En essayant d'être mon propre sauveur, en obéissant aux lois de Dieu, en vivant de manière vertueuse pour qu'il me soit redevable. Vous voyez, cette deuxième approche, cette approche religieuse, ça fonctionne un peu comme les impôts. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand on a payé nos impôts, on estime quand même que l'État nous est un peu redevable. J'ai payé mes impôts, je m'attends à ce que les routes soient plates et que les écoles tournent. Ce genre de choses. On a quand même une attente envers l'État. Vous voyez, c'est ce principe-là, celui de la religion. Il y a donc bien trois types de relations à Dieu. La religion, l'irreligion et l'évangile. Et contrairement à ce qu'on pense, le problème principal de chaque être humain, parce qu'il est lié à notre besoin fondamental de justice, on pourrait dire le péché par excellence, et donc là je qualifie un peu ce que j'ai dit plus haut, c'est bien un péché aussi, ce n'est pas l'irreligion, mais c'est la religion. En fait, on fonctionne un peu comme des machines, comme un ordinateur. Vous savez, les ordinateurs, ils ont toujours les paramètres par défaut. Si vous n'allez pas les changer, l'ordinateur va fonctionner selon ses paramètres par défaut. Il faut que vous alliez dans les paramètres pour changer, pour que ça fonctionne comme vous le voulez, vous. Les paramètres par défaut du cœur humain, c'est de chercher à être son propre sauveur, rendant Dieu redevable envers moi. D'ailleurs, toutes les religions du monde, sauf l'évangile du Christ, toutes les religions du monde fonctionne sur ce principe-là. Je fais tout mon possible, les cinq piliers, par exemple, pour que Dieu ait des dettes envers moi, pour qu'il me soit redevable. On a parlé de Martin Luther tout à l'heure, et il a dit la chose suivante, écoutez bien. Il a dit, entre 1000 personnes, il n'en est pas une, il n'y a personne ici, entre 1000 personnes, il n'en est pas une qui ne mette pas sa confiance dans ses œuvres, et qui ne s'imagine pas acquérir par là la faveur de Dieu et s'assurer sa bonté, faire de cela un commerce que ne saurait tolérer Dieu. Vous voyez, c'est comme ça qu'une religion fonctionne. C'est un marchandage, c'est un chantage en fait. J'ai fait ma part du deal à ton tour. Le problème, c'est que la faveur de Dieu, son amour, sa grâce, est si précieuse qu'elle ne se marchande pas, elle ne s'achète pas, elle se reçoit. Et c'est bien là toute l'erreur du peuple d'Israël à qui Dieu avait donné sa loi, les 10 commandements. Juste faire une courte pause et qu'on regarde un tout petit peu le survol de la Bible rapidement. Ça, si vous vous rappelez, dans l'Ancien Testament, c'est vraiment le point de départ. C'est là la constitution du peuple d'Israël. On est sur le mont Sinaï, dans le désert d'Arabie, en fait, et Dieu donne sa loi au peuple d'Israël, à Moïse, par l'intermédiaire de Moïse. Et on les connaît bien, ces 10 commandements. Je pense que la plupart d'entre nous, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne mentiras pas, tu ne convoiteras pas, etc. Il y en a d'autres qu'on pourrait citer, bien sûr. Mais ces lois, elles n'avaient jamais été données par Dieu au peuple dans le but qu'ils se rendent acceptables à ses yeux en y obéissant parfaitement. Ça, c'est impossible. C'est d'autant plus clair qu'il est absolument impossible d'obéir à ces lois quand on regarde comment Jésus lui-même les interprète. Dans les évangiles, Jésus explique que simplement des pensées meurtrières font de nous des meurtriers. Simplement des pensées impures font de nous des adultères. C'est particulièrement dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 5, Jésus dit la chose suivante aux juifs qui sont rassemblés autour. Donc, ce peuple qui a reçu la loi de Dieu, il leur dit: vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas de meurtre. Il cite un des commandements, et puis il ajoute: mais moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Puis un peu plus loin, il dit: vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère dans son cœur. Vous voyez, quand on lit ça, on voit bien que la loi ne pouvait pas avoir été donnée, premièrement, dans le but, enfin, comme un moyen de salut pour le peuple, mais plutôt pour les amener à reconnaître leur besoin d'un sauveur, d'un Messie, dont Dieu avait déjà promis la venue dès les origines de l'histoire humaine. Si vous voulez, on peut le dire de cette manière-là, Dieu a donné sa loi pour rendre cette promesse d'un sauveur qui allait venir encore plus désirable. Et c'est ce que David nous a dit tout à l'heure dans l'Épître aux Romains. Si vous voulez juste venir voir avec moi, tournez quelques pages pour venir voir dans l'Épître aux Romains, au chapitre 10, et moi juste relire un verset que David nous a dit tout à l'heure. Romains chapitre 10, et je vais lire juste le verset 3. Où Paul parle des Juifs, du peuple d'Israël, et il dit, chapitre 10, verset 3, « En ignorant la justice de Dieu, et en cherchant à établir leur propre justice, en cherchant à se rendre acceptables aux yeux de Dieu par leur obéissance, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi en vue de la justice pour tout croyant. » Et si on veut juste dire les choses plus simplement, de manière un peu plus franche, la loi n'avait jamais été donnée pour rendre les hommes meilleurs, les pires. Elle n'avait jamais été donnée pour rendre des hommes irreligieux, pour transformer des hommes irreligieux en hommes religieux. Vous êtes là ce matin et vous croyez encore que devenir chrétien, ça veut dire devenir religieux. Vous ne pouvez pas être plus faux que ça. Regardez l'exemple de Paul. Si on reprend notre passage en Philippiens, Paul, il n'est pas devenu chrétien en changeant son attitude par rapport au péché et en devenant religieux. On peut dire qu'il était tombé dedans quand il était petit. Il était comme ça, il était religieux, il avait toujours été, il vivait une vie morale qui était en tout cas extérieurement, aux yeux des autres, irréprochable. Il n'est pas devenu chrétien en changeant son attitude par rapport au péché, en devenant religieux. Il est devenu chrétien en changeant son attitude par rapport à sa justice. Ce qui était pour moi un gain, c'est ce qu'il dit, ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte, afin de gagner Christ. Et pour nous qui sommes chrétiens, on pense parfois que la repentance que Dieu exige de nous, c'est d'avoir du regret et de demander pardon pour nos péchés, mais c'est pas ça. comprenez-moi bien, c'est pas moins que ça, mais c'est beaucoup plus que ça. Dieu nous demande de lui demander pardon pour notre péché et pour notre propre justice. Et peut-être que vous avez grandi dans une famille chrétienne ou que vous venez d'un milieu plutôt religieux, quel qu'il soit d'ailleurs. Et si c'est votre cas, c'est vraiment crucial de comprendre ça. Parce que peut-être qu'il vous arrivez d'avoir, on pourrait dire, une expérience religieuse, suite à quelque chose que vous avez fait, de vous sentir mal, d'avoir du regret pour ce que vous aviez fait, peut-être d'avoir un désir même de changer de vie. Mais maintenant, après un peu de recul, vous diriez qu'au fond, cette expérience religieuse, elle n'a pas vraiment marché pour vous. Vous aurez peut-être même d'ailleurs plutôt l'impression que plutôt que de vous faire du bien, ça vous a fait plutôt du mal. Vous êtes torturé parce que anxieux de ne pas être à la hauteur des attentes qui sont là, d'une part, et puis d'autre part, vous vous dégoûtez par moment parce que vous êtes franchement assez orgueilleux dès que vous pouvez vous comparer avec quelqu'un qui a un CV moins étincelant que le vôtre. Si c'est une situation que vous connaissez, que vous avez connue, croyez-moi, et je parle vraiment d'expérience, c'était mon cas, et c'est malheureusement encore mon cas parfois, vous êtes peut-être repenti de votre péché, mais vous n'êtes pas encore repenti de votre propre justice. Vous n'avez pas encore demandé pardon à Dieu pour avoir essayé et essayé encore d'être votre propre sauveur. De lui avoir dit « Non, non, merci, j'ai pas besoin de toi, je me débrouille très bien sans toi. » Et vous voyez, là, je crois qu'on touche vraiment au cœur du problème. Il y a une sorte de cercle un peu vicieux dans lequel on est pris, un peu comme à Aix, vous savez, quand vous prenez le périph', vous êtes obligé de faire le tour. N'importe où vous entrez, il n'y a pas moyen de faire demi-tour, vous faites le tour. Il y a une circularité, il y a un cercle vicieux duquel on n'arrive pas à se sortir nous-mêmes. Pourquoi je dis ça? Regardez. Parce que lorsqu'on obéit au commandement de Dieu dans le but d'obtenir quelque chose de lui, on est en fait en train de désobéir au plus grand commandement. C'est pas ironique? Parce que Jésus a dit que c'est le plus grand, le premier commandement, celui qui résume tous les autres, tous ceux que j'ai mentionnés avant, le plus grand commandement, c'est celui-là. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et vous voyez, quand on obéit au commandement de Dieu dans le but qu'il nous soit redevable, on ne le fait pas par amour. On ne le fait pas dans un désir de lui plaire, on le fait par amour pour nous. Et même nos actes les plus vertueux, au fond, ne sont pas si vertueux que ça. Franchement, si on est un peu honnête, c'est mon cas, j'ai dû être un peu honnête dans la préparation de cette prédication. Souvent, la plupart du temps, on agit de manière vertueuse plus par crainte des conséquences ou par orgueil, finalement de manière très égoïste, que par un souci de plaire à Dieu et de lui obéir. On contient un certain comportement par crainte, comme j'ai dit, ça peut être des conséquences, parce qu'une insulte, et c'est votre réputation qui est salie, un adultère, et c'est votre famille qui explose, un mensonge, et c'est une relation de confiance qui est brisée. Vous voyez, on s'en tient à certains comportements parfois simplement par crainte ou encore plus simplement parfois par orgueil, juste dans le but de pouvoir se mesurer aux autres et d'en ressortir indemne, on va dire. Vous voyez le cercle vicieux dans lequel on est. La justice, c'est notre problème le plus grand, parce qu'en cherchant à l'obtenir par nos mérites, on ne s'en trouve que plus coupable en fait. C'est mon deuxième point. Et peut-être que vous vous dites, mais alors, c'est quoi la réponse? Si on est si mauvais, si coupable devant Dieu, comment est-ce qu'on peut se rendre acceptable devant lui? Et la réponse que j'aimerais vous donner, ce sera beaucoup plus court, mon dernier point, c'est en comprenant que la justice, c'est non seulement notre besoin le plus fondamental, et notre problème le plus grand, mais c'est aussi le cadeau le plus merveilleux que Dieu puisse vous faire. Regardez les versets 7 à 9, encore une fois. Paul dit, mais ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause du Christ. Et même, je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. à cause de lui, j'ai accepté de tout perdre et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec une justice qui serait la mienne et qui viendrait de la loi, mais avec la justice qui est obtenue par la foi en Christ, une justice provenant de Dieu et fondée sur la foi. Voilà l'évangile. La bonne nouvelle, c'est que c'est Dieu qui te donne un bon CV. C'est Dieu qui nous donne une justice, sa justice. Peut-être je vous dis, mais est-ce que c'est pas un tout petit peu arbitraire ça? Est-ce que vraiment Dieu peut fermer les yeux complètement sur ma culpabilité? Ou peut-être que vous aimeriez bien que Dieu ferme les yeux sur votre culpabilité, mais vous êtes d'accord avec moi, on n'aimerait pas qu'il ferme les yeux sur la culpabilité des criminels de guerre, des violeurs. Ce serait injuste, ce serait horrible. Imaginez un Dieu qui ferait ça. Ce serait un tyran. Vous voyez, donc la question qui est là, juste sous la surface du texte, c'est finalement comment est-ce que un Dieu juste peut justifier des injustes sans que ça, ce soit injuste. C'est ça la question qui est là. Et la réponse qui nous est donnée ici, c'est que Dieu prend notre CV, avec écrit dessus tout ce dont on aimerait tellement se vanter envers les autres, et avec écrit dessus tout ce qu'on aimerait jamais que les autres sachent à notre propos, toute notre justice propre, toute notre culpabilité, Dieu prend ce CV-là, et il le donne à Jésus, qui, lui, souffre à la croix la condamnation, la punition que nous méritions. Mais ça ne s'arrête pas là, parce qu'il prend, Dieu prend le CV de Jésus-Christ, lui qui a vécu une vie parfaite, d'obéissance joyeuse et volontaire jusqu'à la mort, par amour pour Dieu, son Père, il prend le CV de Jésus-Christ et il nous le donne, et là il nous déclare juste, en vertu de la justice de Jésus-Christ. Voilà comment un Dieu juste peut justifier des injustes, sans que ce soit injuste. Parce qu'il y en a un qui a payé. Il y en a un qui a pris notre place. Et c'est seulement en considérant tout ce que je suis, tout ce que j'ai fait, même mes actes les plus vertueux comme de la boue, qui me rend juste un peu plus sale et un peu plus inacceptable devant Dieu, et en plaçant seulement, en plaçant ma foi, c'est-à-dire ma confiance pleine et entière en Christ seul pour être accepté devant Dieu, que cette justice m'est donnée. Et l'image que la Bible emploie pour décrire cette justice que Dieu nous donne, c'est celle d'un habit dont Dieu nous revêt. Une cuirasse. Non, en effet, d'un il est question de la cuirasse de la justice. Et c'est ce que Paul dit au verset 9 aussi, il dit, est d'être trouvé en lui, en Christ, c'est uni à Christ par la foi que cette justice nous est donnée. Et on en est recouvert, on pourrait dire, de la tête aux pieds. Il n'y a pas de défaut dans la cuirasse que je dois combler par mes mérites. Mais pour nous qui sommes chrétiens, savoir que ma justice se trouve en Christ seul, qu'il a vécu la vie que j'aurais dû vivre, qu'il est mort de la mort que j'aurais dû vivre, savoir ça, savoir que c'est cette justice-là que Dieu me donne, c'est une cuirasse. On dirait aujourd'hui, c'est un gilet pare-balles. Yes. Je peux tout encaisser maintenant. Une fois que vous êtes découragé, vraiment découragé, vous êtes mis face à un échec dans un domaine qui est important pour vous dans votre vie, que vous êtes mis face à votre péché, ou que quelqu'un vous a profondément blessé dans votre orgueil, arrêtez-vous juste une seconde. Parce que peut-être qu'avant ces choses vous auraient complètement dévasté. Mais aujourd'hui ces choses n'exercent plus de contrôle sur votre vie. Un chrétien, il n'a pas peur qu'on lui parle de ses péchés. Et à l'inverse, que Dieu vous ait doué d'une grande intelligence, d'une grande beauté, que vos enfants aient beaucoup de succès ou que votre carrière soit brillante, c'est génial. Mais ce n'est pas votre justice. Ce n'est pas ça qui vous permet de vous regarder dans le miroir chaque matin. Mais c'est d'être trouvé en lui, en Christ. Non avec une justice qui serait la mienne, qui viendrait de la loi, mais avec la justice qui est obtenue
par la foi en Christ, une justice provenant de Dieu et fondée sur la foi.
Je vais m'arrêter là, mais on va juste vous dire qu'il y a tellement de manières dont ces vérités, là, cet évangile, s'applique à nos vies, que dans nos relations au monde, aux autres, à moi-même, à Dieu, que voilà, on n'a fait que toucher la surface vraiment. Et j'aimerais vraiment vous encourager, si c'est la première fois que vous entendez ces choses-là, à continuer à creuser, à vous confronter à la parole de Dieu, pour que d'une part, en vous plongeant dans sa loi, vous voyez à quel point vous êtes plus pécheur et tortueux que vous auriez pensé, que vous n'auriez jamais osé l'imaginer, et en même temps pour voir dans la manifestation de Dieu en Christ, de son amour en Christ, que vous êtes en lui, en Christ, plus aimé et accepté que vous n'auriez jamais osé l'espérer. C'est ça la beauté de l'évangile. Être à la fois pécheur et justifié. Je m'arrête là et je vous propose qu'on réponde à cette prédication par le chant d'un cantique qui va nous rappeler que, voilà, comme on l'a vu, nous n'avons rien à offrir à Dieu. C'est le 238. Seigneur, je n'ai rien à t'offrir qu'un cœur fatigué de souffrir et qui sans toi ne peut guérir, ce n'est que ma misère. Prends-moi tel que je suis. C'est le numéro 238.
Que je suis